Rachel. Vendredi 19 juillet 2013. Matin. Le train de 8h04 est presque désert. Les fenêtres sont ouvertes et après l'orage d'hier, l'air s'est rafraîchi. Megan a disparu depuis près de 133 heures. Et moi, cela fait des mois que je ne me suis pas sentie aussi bien. Ce matin, quand je me suis regardée dans la glace, j'ai vu la différence sur mon visage. Le teint plus clair, les yeux plus brillants. Je me sens plus légère. Je n'ai pas perdu un gramme, ça j'en suis sûre. Mais je me sens moins alourdie, je me sens moi-même, la personne que j'étais avant. Je n'ai pas eu de réponse de Scott. J'ai fouillé le web, mais je n'ai pas non plus trouvé trace d'une arrestation, alors j'imagine qu'il a choisi d'ignorer mon message. Je suis déçue, mais c'était à prévoir. Gaskill m'a téléphoné, au moment où je sortais de l'appartement, pour me demander si je pouvais passer au poste dans la journée. L'espace d'un instant, j'ai eu très peur. Puis je l'ai entendu ajouter, de sa voix calme et tempérée, qu'il voulait simplement que je jette un œil à quelques photographies. Je lui ai demandé si Scott Hipwell avait été arrêté. Personne n'a été arrêté, Madame Watson. Mais l'homme, celui qui est en garde à vue, je ne suis pas en mesure d'en parler pour l'instant. Il a une façon de s'exprimer si apaisante, si rassurante, que je recommence à l'aimer. J'ai passé la soirée d'hier assise sur le canapé avec un t-shirt et un pantalon de jogging à établir des listes de choses à faire, des stratégies envisageables. Par exemple, je pourrais me rendre à l'heure de pointe aux alentours de la gare de Whitney et attendre de revoir l'homme roux de samedi soir. Je pourrais l'inviter à boire un verre et voir où ça me mène, s'il a vu quelque chose, ce qu'il sait sur cette soirée-là. Le problème, c'est que je risque de croiser Anna ou Tom. Et si cela arrivait, ils appelleraient la police, ce qui m'attirerait des ennuis, encore plus d'ennuis. L'autre problème, c'est que je risque de me mettre en danger. Il me reste encore la trace d'une dispute sur la tête. C'est peut-être une preuve matérielle, ce qu'il y a sur mon crâne et sur ma lèvre. Et si c'était lui qui m'avait fait du mal? Le fait qu'il m'a souri et regardé ne signifie rien. C'est peut-être un psychopathe, après tout. Mais je n'arrive pas vraiment à y croire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je lui fais confiance. Je pourrais tenter de contacter Scott à nouveau. Mais il faut lui donner une raison de me parler et j'ai peur que la seule chose que j'ai à lui raconter me fasse passer pour une folle. Il risquerait même de penser que j'ai quelque chose à voir avec la disparition de Megan et d'appeler la police. Et là, j'aurais de vrais ennuis. Je pourrais me tourner vers l'hypnose. Je suis presque sûre que ça ne m'aidera pas à me souvenir de quoi que ce soit, mais je suis tout de même curieuse. Ça ne coûte rien d'essayer, de toute façon. J'étais assise là, à prendre des notes et à étudier les articles que j'avais imprimés, quand Cathy est rentrée. Elle revenait du cinéma où elle était allée avec Damien. De toute évidence, elle était agréablement surprise de me trouver sobre. Mais elle restait sur ses gardes, parce qu'on n'avait toujours pas eu l'occasion de discuter depuis la visite de la police mardi soir. Je lui ai dit que je n'avais rien bu depuis 3 jours, et elle m'a prise dans ses bras. « Je suis tellement contente que tu reviennes à la normale », s'est-elle écriée, comme si elle avait un point de comparaison. « Et pour cette histoire avec la police, ai-je ajouté, c'est un malentendu. Il n'y a aucun problème entre Tom et moi, et je ne sais rien au sujet de la fille disparue. Tu n'as pas à t'en faire. » Elle m'a de nouveau prise dans ses bras, puis elle est allée nous préparer du thé. J'ai hésité à profiter de sa bonne volonté retrouvée, pour lui parler de ma situation professionnelle, mais je n'avais pas envie de lui gâcher la soirée. Elle était encore de très bonne humeur ce matin. Elle m'a étreinte une nouvelle fois avant que je m'en aille. « Je suis tellement contente pour toi, Rachel », a-t-elle répété. « Que tu te reprennes en main, je me faisais du souci pour toi. » Ensuite, elle a ajouté qu'elle allait passer le week-end chez Damien, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était que ce soir, je pourrais rentrer et prendre un verre sans personne pour me critiquer. Soir. Ce que j'aime dans un gin tonic bien froid, c'est le goût amer, un peu piquant, de la quinine. Normalement, on y met du Schweppes, si possible d'une bouteille en verre, pas en plastique. Ces trucs tout près ne sont pas terribles, mais faute de grive. Je sais que je ne devrais pas, mais j'en ai eu envie toute la journée. Ce n'était pas juste par anticipation de la solitude, c'était aussi l'excitation, l'adrénaline. Je suis contente, j'ai la peau qui frémit. C'était une bonne journée. Ce matin, j'ai passé une heure seule à seule avec le capitaine Gaskill. On m'a emmené le voir dès que je suis arrivée au poste. On s'est installé dans son bureau, pas dans la salle d'interrogatoire de la dernière fois. Il m'a proposé du café et, quand j'ai accepté, j'ai eu la surprise de le voir se lever pour aller le préparer lui-même. Il a une bouilloire et une boîte de Nescafé sur un petit frigo dans un coin de son bureau. Il s'est excusé de ne pas avoir de sucre. J'ai bien aimé ce moment avec lui. J'ai bien aimé regarder ses mains remuer. Il n'est pas très expressif, mais il touche beaucoup aux objets. Je n'avais jamais remarqué ça avant, parce qu'il n'y avait pas vraiment de place pour quoi que ce soit dans la salle d'interrogatoire. Mais là, il ne cessait de déplacer sa tasse de café, son agrafeuse, son pot à crayons, ou de refaire des piles de papier. Il a des grandes mains avec de longs doigts aux ongles soignés. Pas d'alliance. Ce n'était pas pareil ce matin. Je n'avais plus l'impression d'être une suspecte, quelqu'un qu'il essayait de piéger. Je me suis sentie utile. Surtout quand il a sorti un dossier qu'il a ouvert devant moi pour me montrer une série de photographies. Scott Hipwell, trois hommes que je n'avais jamais vus, et enfin, A. Au début, je n'en étais pas certaine. J'ai examiné la photo en tâchant de me représenter l'homme que j'avais vu avec elle ce jour-là, la tête inclinée lorsqu'il s'était penché pour l'embrasser. « C'est lui, » ai-je dit. « Je crois que c'est lui. »« Vous n'en êtes pas sûr ?»« Je crois que c'est lui. » Il a repris le cliché pour l'observer à son tour un instant. « Vous les avez vus s'embrasser, c'est ce que vous nous avez dit. Vendredi dernier, c'est ça ? Il y a une semaine ?»«
Oui, c'est ça, vendredi matin. Ils étaient dehors, dans le jardin. » »«
Et il n'est pas possible que vous ayez mal interprété ce que vous avez aperçu ? Ça n'aurait pas pu être, mettons, une accolade ou un baiser amical.
Non, c'était un vrai baiser. Un baiser romantique.
J'ai vu ses lèvres frémir à cet instant, comme s'il voulait sourire.
Qui est-ce ? Ai-je demandé à Gaskill. Est-ce qu'il... Vous pensez qu'elle est avec lui ?
Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de secouer doucement la tête.
Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que j'ai été au moins un peu utile ?
Oui, Madame Watson, vous nous avez aidés. Merci d'être venue.
Nous nous sommes serrés la main et, l'espace d'une seconde, il a presque posé sa main gauche sur mon épaule droite et j'ai eu envie de tourner la tête pour embrasser sa main. Cela faisait longtemps qu'on ne m'avait pas touchée ainsi, avec quelque chose qui pourrait être de la tendresse. Enfin... si on ne compte pas Cathy.
Gaskill m'a ouvert la porte et m'a guidé jusqu'à la partie open space du poste, où il y avait environ une douzaine d'officiers de police. Un ou deux parmi eux m'ont rapidement observé, avec peut-être une once d'intérêt ou de dédain, je ne saurais dire. Nous avons traversé le poste de police jusqu'au couloir, et là, je l'ai vu qui marchait vers moi, escorté par Riley. Scott Hipwell. Il venait de passer la porte principale. Malgré sa tête baissée, j'ai immédiatement su que c'était lui. Il a levé les yeux et salué Gaskill d'un signe du menton avant de me considérer brièvement. Un instant, nos regards se sont croisés et j'aurais juré qu'il m'avait reconnu. J'ai repensé à ce matin où je l'avais vu, sur le balcon, tourné vers la voie ferrée et où j'avais senti qu'il me regardait. Nous nous sommes croisés dans le couloir. Il est passé si près que j'aurais pu le toucher. Il était si beau, en chair et en os. Les traits tirés et tendus comme un ressort, irradiant une énergie nerveuse. Alors que nous arrivions au hall d'entrée, je me suis retournée pour le voir à nouveau, certaine d'avoir senti ses yeux posés sur moi. Mais c'était Riley qui m'observait. J'ai pris le train pour Londres et je suis allée à la bibliothèque. J'ai lu tous les articles que j'ai pu trouver sur cette affaire, mais je n'ai rien appris de plus. J'ai cherché des adresses de thérapeutes qui pratiquent l'hypnose à Ashbury, sans aller plus loin. C'est très cher et rien ne prouve que ça puisse aider à retrouver des souvenirs. Mais à force de lire les témoignages de gens qui prétendaient avoir recouvré la mémoire grâce à l'hypnose, je me suis rendu compte que la réussite m'effrayait plus que l'échec. J'ai peur de ce que je pourrais apprendre à propos de ce fameux samedi soir, mais aussi de tout le reste.
Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter de revivre toutes les choses idiotes et affreuses que j'ai faites, d'entendre à nouveau les mots que j'ai prononcés sous le coup de la colère, de revoir l'expression de Tom lorsqu'il les a entendus. Je n'ai pas le courage de m'aventurer dans ces ténèbres. J'ai hésité à envoyer un nouvel email à Scott, mais ça ne servirait à rien. Mon entrevue de ce matin avec Gaskill m'a prouvé que la police me prenait au sérieux. Je n'ai plus de rôle à jouer dans cette histoire, il faut que je l'accepte. Et je peux me dire que, au moins, j'aurais aidé. Parce que je n'arrive pas à croire que ce soit une coïncidence que Megan ait disparu le lendemain du jour où je l'ai vue avec cet homme. Au son d'un clic et d'un pétillement joyeux, j'ouvre ma deuxième canette de gin tonic. Et avec une vague de fierté, je réalise que je n'ai pas pensé à Tom de la journée. Enfin, jusqu'à maintenant. J'ai pensé à Scott, à Gaskill, à l'homme du train. Tom est passé en cinquième position. Je prends une gorgée avec le sentiment que j'ai enfin quelque chose à fêter. Je sais que tout va s'arranger, que je vais être heureuse. Il n'y en a plus pour longtemps. Samedi 20 juillet 2013. Matin. Je suis irrécupérable. Je me réveille avec la sensation écrasante d'un problème, un sentiment de honte, et je comprends immédiatement que j'ai fait une bêtise. Je retrouve mon rituel, ce rituel qui m'est tristement familier. J'essaye de me souvenir de ce que j'ai fait exactement. J'ai envoyé un email. C'est ça. Au cours de la nuit dernière, Tom a fini par remonter en tête de la liste des hommes auxquels je pense, et je lui ai envoyé un email. Mon ordinateur portable m'attend, posé à terre à côté de mon lit, accusateur. Je l'enjambe pour me rendre dans la salle de bain, où je bois au robinet en m'examinant hâtivement dans la glace. Je n'ai pas l'air en forme. Mais bon, 3 jours, ce n'est déjà pas si mal. Et puis je vais recommencer dès aujourd'hui. Je reste une éternité sous la douche. Je baisse la température de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle soit glacée. On ne peut pas se mettre tout de suite sous une douche froide, c'est trop violent, trop brutal. Mais si on y va petit à petit, on s'en rend à peine compte. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante, mais à l'envers. L'eau fraîche apaise ma peau. Elle atténue la brûlure des coupures sur mon crâne et au-dessus de mon œil. J'emporte mon ordinateur au rez-de-chaussée et je me prépare une tasse de thé. Il y a une minuscule chance que j'ai écrit un email à Tom et que je ne l'ai pas envoyé. Je prends une grande inspiration et j'ouvre ma boîte de réception Gmail. Je suis soulagée de voir que je n'ai pas de nouveaux messages. Mais quand je clique sur le dossier « éléments envoyés », la preuve est là. Je lui ai effectivement écrit. C'est juste qu'il n'a pas répondu. Pas encore. Le message est parti à peu près à 23h, hier soir. À ce moment-là, ça faisait plusieurs heures que je buvais. L'adrénaline et la gaieté que je ressentais au début avaient dû se dissiper depuis un bon bout de temps. Je clique sur le message. Tu veux bien dire à ta femme d'arrêter de raconter des mensonges à la police à mon sujet? C'est d'une bassesse d'essayer de me créer des ennuis, tu ne trouves pas? De dire à la police que je suis obsédée par elle et par sa sale gamine? Ce n'est pas le centre du monde. Dis-lui de me foutre la paix. Je ferme les yeux et j'abaisse d'un coup sec l'écran de l'ordinateur. Je me recroqueville littéralement. Mon corps se replie sur lui-même. Je voudrais rapetisser, disparaître. Et j'ai peur aussi, parce que si Tom décide de montrer ça à la police, alors je risque vraiment d'avoir des problèmes. Si Anna rassemble des éléments pour prouver que je suis vindicative et obsessionnelle, ce message pourrait devenir une pièce maîtresse du dossier. Et pourquoi ai-je mentionné leur petite fille? Quel genre de personne irait faire ça? Je ne lui souhaite aucun mal. Jamais je ne souhaiterais de mal à un enfant, n'importe lequel, encore moins celui de Tom. Je ne me comprends pas. Je ne comprends pas la personne que je suis devenue. Bon sang, il doit me détester. Je me déteste moi-même. Je déteste cette version de moi, ou en tout cas, celle qui a rédigé cet email hier soir. On ne dirait même pas que c'est moi parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas haineuse. À moins que... je tâche de ne pas repenser aux pires fois. Mais dans ces moments-là, les souvenirs s'accumulent dans ma tête. Une autre dispute vers la fin, après une fête, après que j'ai perdu connaissance. Tom me raconte comment j'ai agi la veille, comment je l'ai encore humilié en insultant la femme d'un de ses collègues, en lui hurlant dessus parce que je croyais qu'elle flirtait avec mon mari. « Je ne veux plus aller où que ce soit avec toi », m'a-t-il dit. « Tu veux savoir pourquoi je n'invite plus jamais personne chez nous ? Pourquoi je n'ai plus envie d'aller au pub avec toi ? Tu veux vraiment savoir pourquoi ? C'est à cause de toi. C'est parce que j'ai honte de toi. » J'attrape mon sac à main et mes clés pour aller au magasin au bout de la rue. Ça m'est égal qu'il ne soit même pas 9h du matin. J'ai peur et je veux arrêter de penser. Si je prends un verre avec une aspirine, je peux me rendormir et rester au lit toute la journée. Je m'occuperai de ça plus tard. J'arrive devant la porte d'entrée, j'ai la main sur la poignée quand je m'interromps. Je pourrais lui demander pardon. Si je m'excuse maintenant, j'arriverai peut-être à me rattraper un peu, à le persuader de ne pas montrer le message à Anna ni à la police. Ce ne serait pas la première fois qu'il me protégerait de sa colère. Ce jour-là, l'été dernier, le jour où je suis allée chez Tom et Anna, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'ai raconté au poste. Je n'ai pas sonné à la porte pour commencer. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais. D'ailleurs, je ne suis toujours pas claire sur mes intentions. J'ai bien remonté le chemin et je suis passée par-dessus la barrière. C'était très calme. Je n'entendais aucun bruit. Je suis allée jusqu'aux portes coulissantes et j'ai regardé à l'intérieur. C'est vrai qu'Anna était endormie sur le canapé. Je n'ai pas appelé. Ni Tom, ni elle. Je ne voulais pas la réveiller. Le bébé ne pleurait pas. Elle dormait profondément dans sa nacelle, posée à côté de sa mère. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai emmenée dehors aussi vite que j'ai pu. Je me souviens d'avoir couru avec elle jusqu'au grillage et elle s'est réveillée et a commencé à geindre. Je ne sais pas ce que je pensais faire. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je suis arrivée au grillage et je la serrais contre moi, mais elle pleurait pour de bon maintenant. Elle commençait à crier. Je l'ai bercée en chuchotant doucement pour la rassurer, et c'est là que j'ai entendu un autre bruit, un train qui arrivait. J'ai tourné le dos au grillage et je l'ai vu. Anna, qui se ruait vers moi, la bouche ouverte comme une plaie béante. Ses lèvres remuaient, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Elle m'a repris l'enfant, alors j'ai voulu m'enfuir, mais j'ai trébuché et je suis tombée. Elle s'est tenue au-dessus de moi et elle m'a hurlé dessus. Elle m'a dit de ne pas bouger, que sinon elle appellerait la police. Elle a téléphoné à Tom, qui est rentré et qui est allé s'asseoir avec elle dans le salon. Elle était hystérique, elle pleurait. Elle voulait toujours appeler la police et me faire arrêter pour enlèvement. Tom l'a calmée. Il l'a suppliée de renoncer et de me laisser partir. Il m'a sauvée. Après cela, il m'a reconduite chez moi. Au moment où j'allais descendre de la voiture, il m'a pris la main. J'ai cru que c'était un geste de gentillesse pour me rassurer. Mais il a serré, fort, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que je pousse un cri. Le visage écarlate, il m'a dit qu'il me tuerait si je faisais un jour du mal à sa fille. Je ne sais pas ce que je comptais faire ce jour-là. Je ne le sais toujours pas. Devant la porte, j'hésite. Les doigts enroulés autour de la poignée, je me mords la lèvre inférieure. Je sais que si je commence à boire dès maintenant, ça ira mieux pendant une heure ou deux, mais ce sera pire les 6 ou 7 suivantes. Je lâche la poignée et je repars dans le salon où j'ouvre à nouveau mon ordinateur. Il faut que je m'excuse, que je demande pardon. Je me reconnecte à mon compte de messagerie et je vois un nouvel email reçu. Ce n'est pas Tom, c'est Scott Hipwell. Chère Rachel, merci de m'avoir contactée. Je ne me souviens pas que Megan m'ait parlé de vous, mais elle avait beaucoup de visiteurs réguliers à la galerie et je ne suis pas très douée pour retenir les prénoms. Je voudrais vous parler de ce que vous savez. Appelez-moi au 975-83-123-657, aussi vite que possible. Cordialement, Scott Hipwell. L'espace d'un instant, je pense qu'il s'est simplement trompé d'adresse. Ce message ne m'est pas destiné. Ça ne dure qu'une seconde, puis je me souviens. Je me souviens. Assise sur le canapé au milieu de ma deuxième bouteille, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie que mon rôle soit terminé. Je voulais être au cœur de cette histoire. Alors, je lui ai écrit. Je fais défiler l'écran jusqu'au bas de son message où je trouve le mien. Cher Scott, je suis désolée d'insister, mais je crois qu'il est important que nous discutions. Je ne sais pas si Megan vous a déjà parlé de moi. Je suis une amie. Nous nous sommes rencontrés à la galerie. Je vivais à Whitney à l'époque. Je crois que je dispose d'informations qui pourraient vous intéresser. Merci de me répondre à cette adresse. Rachel Watson. Je sens la chaleur me monter au visage, mon estomac s'emplir d'acide. Hier, rationnel, les idées claires, raisonnables, j'ai décidé que je devais accepter que mon rôle dans cette affaire soit terminé. Mais la meilleure volonté du monde n'a pas suffi. Elle a été anéantie par la boisson, par la personne que je suis quand je bois. Rachel, l'ivrogne, ne mesure aucune conséquence. Elle est soit trop expansive et optimiste, soit pleine de haine. Elle n'a ni passé ni avenir. Elle n'existe que pour le moment présent. Rachel, l'ivrogne, voulait faire partie de l'histoire. Elle avait besoin de persuader Scott de lui parler, alors elle a menti. J'ai menti. Je voudrais me taillader la peau avec des couteaux, juste pour ressentir autre chose que de la honte. Mais je n'ai même pas le courage de faire ça. Je commence à écrire à Tom. À écrire et effacer, recommencer et effacer, pour tâcher de trouver comment demander pardon pour les choses que j'ai dites hier soir. Si je devais mettre par écrit toutes les transgressions pour lesquelles je devrais m'excuser auprès de Tom, il y aurait de quoi remplir un livre entier. Soir. Il y a une semaine, il y a presque exactement une semaine, Megan Hipwell est sortie du numéro 15 Blenheim Road et elle a disparu. Personne ne l'a vue depuis. Son téléphone et ses cartes bancaires n'ont pas été utilisés depuis samedi. Quand j'ai lu cela dans un article, aujourd'hui, je me suis mise à pleurer. J'ai honte maintenant de ce à quoi j'ai secrètement pensé. Megan n'est pas un mystère à résoudre. Ce n'est pas une silhouette qui apparaît dans l'objectif au début d'un film, belle, diaphane, évanescente. Megan n'est pas un message crypté. Elle est réelle. Je suis dans le train pour aller chez elle. Je vais rencontrer son mari. J'ai bien été obligée de l'appeler. Le mal était fait. Je ne pouvais pas me contenter d'ignorer son email, sinon il allait en parler à la police, non? À sa place, c'est ce que je ferais. Si une inconnue me contactait en prétendant disposer d'informations, puis ne me répondait plus par la suite. Il a peut-être même déjà appelé la police. Et peut-être qu'ils seront là à m'attendre quand j'arriverai. Assise là, à la même place que d'habitude, mais pas le bonjour, j'ai l'impression que je fonce tout droit vers un précipice. C'est ce que j'ai ressenti ce matin quand j'ai composé son numéro. L'impression d'être en pleine chute dans l'obscurité complète, incapable de savoir quand j'allais toucher le sol. Il m'a parlé à voix basse, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce et qu'il craignait qu'on ne l'entende.
« Est-ce qu'on peut se voir en personne ?»
a-t-il demandé. « Non, je ne crois pas. »«
S'il vous plaît. »
Je n'ai hésité qu'un instant, puis j'ai accepté.
« Vous pouvez venir chez moi ? Pas maintenant, mais il y a des gens. Ce soir ?»
Il m'a donné son adresse et j'ai fait semblant de la noter.
« Merci de m'avoir contacté, »
a-t-il dit avant de raccrocher. J'ai su, dès que j'ai dit oui, que ce n'était pas une bonne idée. Ce que je connais de Scott d'après les articles dans les journaux, ce n'est presque rien. Ce que j'ai appris par mes propres observations, je ne peux pas vraiment m'y fier. Je ne sais rien sur Scott. J'en sais un peu sur Jason, et je dois sans cesse me rappeler qu'il n'existe pas. Tout ce que je sais avec certitude, à 100%, c'est que la femme de Scott a disparu depuis une semaine. Je sais aussi qu'il est probablement suspect. Et parce que j'ai vu ce baiser, je sais qu'il avait un mobile. Bien sûr, il ignore peut-être qu'il a un mobile, mais... Ah, à force d'y penser, je mélange tout. Mais comment pouvais-je laisser passer l'opportunité de m'approcher de cette maison que j'ai examinée 100 fois depuis les rails et depuis la rue? De marcher jusqu'à la porte, de rentrer, de m'asseoir dans la cuisine, sur son balcon, là où ils se sont assis, où je les ai observés. C'était trop tentant. Alors me voilà assise dans le train, les bras croisés et les mains coincées en dessous pour les empêcher de trembler. Je suis aussi excitée qu'un enfant embarqué dans une aventure. J'étais tellement contente d'avoir un but que j'ai arrêté de penser à la réalité. J'ai arrêté de penser à Megan. Mais je pense à elle maintenant. Je dois parvenir à convaincre Scott que je la connaissais un peu, pas beaucoup. Comme ça, il me croira quand je lui dirai que je l'ai vue avec un autre homme. Si je commence par lui avouer que j'ai menti, il ne me fera jamais confiance. Alors j'essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner, de passer à la galerie pour bavarder avec elle autour d'un café. Est-ce qu'elle boit du café? On aurait parlé art, ou peut-être yoga, ou encore de nos maris. Je n'y connais rien en art, je n'ai jamais fait de yoga, je n'ai pas de mari. Et elle a trahi le sien. Je repense à ce que ses vrais amis ont dit à son sujet. Merveilleuse, drôle, belle, un cœur d'or, aimée. Elle a commis une erreur, cela arrive. Personne n'est parfait.